Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. La presse et le devoir. Au programme, sortir de sa coquille. Faire peur aux riches. Et Philippe Claudel entre chien et loup. Bonne écoute.
Sortir de sa coquille et apprivoiser la peur des autres. Texte d'Olivia Lévy, paru le 2 avril 2023 dans La Presse. Sortir de sa coquille. Timidité, trac, phobie sociale. La peur et le jugement des autres sont très répandus dans la population. Deux livres viennent de sortir afin d'outiller ceux et celles qui en souffrent. Louis-Philippe Rivard se décrit comme un timide de classe mondiale. Scripteur humoristique depuis près de 30 ans, il a travaillé avec de nombreux animateurs et humoristes comme Lise Dion, Michel Barrette, Peter McLeod, Marc Dupré, Véronique Cloutier et Patrice Lécuyer. Avec son livre « La revanche des timides » paru aux éditions « Un monde différent », il souhaite aider les autres à sortir de leur coquille. Louis-Philippe Rivard est timide et introverti depuis sa tendre enfance. Il estime avoir un bon bagage de 49 ans d'expérience en gênes, d'où sa légitimité à écrire « La revanche des timides » pour aider les autres à ne pas passer à côté de leur vie pour cause de timidité. Il a toujours eu de la difficulté à imposer sa présence, un héritage de sa mère, qui a inventé la gêne alors que son père n'en connaissait pas la définition, écrit-il. Son plus vieux souvenir de timidité remonte à la maternelle. Il n'était pas à l'aise de jouer avec les autres enfants, et pendant les temps libres, alors que les Lego et les Hot Wheels étaient pris d'assaut, il se retrouvait toujours seul, à la station poterie avec de la terre glaise. J'avais pourtant envie de jouer aux Lego ou aux autos, mais je n'osais pas. Je faisais des cendriers en terre glaise alors que ma mère ne fumait pas. « J'ai dû lui faire une vingtaine de cendriers », se rappelle Louis-Philippe Rivard en entrevue. Pour ne pas jouer au ballon chasseur, il se cachait dans la cour d'école. Il a évité autant que possible les exposés oraux, les travaux en équipe et toute situation inconfortable. Il a passé son secondaire à la bibliothèque. C'est un endroit parfait pour un timide. On ne parle à personne et il y règne un grand silence. J'ai pu lire tous les livres de psychologie et comprendre ma timidité. D'ailleurs, il y a des avantages parfois à être timide, croit-il. On peut passer des heures à observer, à analyser et à écouter les autres, ce qui est une belle qualité. Il faut aussi être capable d'avoir de l'autodérision, car rire de soi, ça aide. Un obstacle pour réaliser ses rêves. Comme beaucoup de timides, sa gêne est un mélange de peur de ne pas être à la hauteur et de celle d'être jugé par les autres. On a peur de ce que les autres pensent de nous, peur de les décevoir. On pense qu'on n'est pas pertinent, pas assez intelligent. On se met à trop réfléchir et on finit par ne rien dire ou alors il est trop tard et on manque constamment des occasions. Et il insiste sur ce point. Pour moi, la timidité, c'est le seul obstacle qui nous empêche de faire des choses dont on a envie et de réaliser nos rêves, et c'est pour cette raison que j'ai écrit ce livre. C'est triste de savoir qu'il y a des gens qui ont du talent mais qui sont trop timides, dit Louis-Philippe Rivard. Grâce à des rencontres déterminantes et à beaucoup d'autodérision, Louis-Philippe Rivard a pu surmonter sa gêne. J'ai eu de la chance, car beaucoup de gens m'ont aidé dans les premières années de ma vie professionnelle. J'étais incapable de parler dans les brainstorming alors que j'avais plein d'idées, se souvient-il. L'auteur Paco Lebel l'a pris sous son aile. Je lui envoyais par écrit des idées et des textes. Il a vu que ça valait la peine, alors il m'a aidé petit à petit à prendre confiance en moi. C'est l'humoriste Peter MacLeod, avec qui il a travaillé à la radio, qui lui a présenté sa conjointe José Boudreau. Une rencontre déterminante dans sa vie. Je n'osais pas la regarder au début. Elle parlait fort, riait fort. J'étais très intimidé. C'est elle qui m'a embrassé en premier. Je n'aurais jamais osé. Si elle ne l'avait pas fait, je pense que je serais encore en train de me demander si j'ose l'embrasser ou pas, dit-il en riant. Il a beaucoup appris de José Boudreau, avec qui il fait des conférences. C'est une vraie extravertie. Elle a envie de danser, elle danse. Elle chante en premier au karaoké, elle parle avec tout le monde. Grâce à elle, j'aime être avec les gens. J'apprécie les soupers entourés d'amis, même avec de nouvelles personnes. José, c'est une vraie inspiration encore aujourd'hui, malgré son accident vasculaire cérébral qui l'a laissé aphasique. Même si elle a du mal à parler, elle continue et elle fait rire les gens. Bien qu'il ait fait beaucoup de progrès, Louis-Philippe Rivard se considère toujours comme timide. Dans un mariage, quand un extraverti pense me sauver en me traînant sur le plancher de danse, avant je le suivais, mais maintenant, je suis capable de dire « Non, je n'ai pas envie, je suis très bien dans mon coin », dit-il. Je sais que nous ne sommes pas seuls, nous, les timides. Il faut petit à petit faire l'effort d'aller vers les autres, se secouer et exprimer ses envies, car sinon, on passe à côté de sa vie. Je vous rappelle que vous écoutez « Sortir de sa coquille et apprivoiser la peur des autres », un texte d'Olivia Lévy, paru le 2 avril 2023 dans La Presse. Apprivoiser la peur des autres. La peur des autres est certainement la peur la plus répandue. Trac, timidité, phobie sociale, rougissement. On a tous vécu une de ces peurs à un moment de notre vie. Dans « La nouvelle peur des autres » publiée aux éditions Odile Jacob, les auteurs et psychiatres français Christophe André, Patrick Légeron et Antoine Pellissolo nous ont fait comprendre les mécanismes des peurs sociales et les moyens de les surmonter. Entrevue avec Antoine Pellissolo, psychiatre et chef de service au CHU Henri Mondor à Créteil, en France. Qu'est-ce que la timidité? Et quelle est la différence avec l'anxiété sociale? La grande différence entre la timidité et l'anxiété sociale, c'est que la timidité n'est pas pathologique en soi. C'est un trait de caractère, un comportement qui est d'ailleurs très répandu, puisqu'il y a près de la moitié de la population qui se considère comme timide ou qui a été timide à un moment donné. Un timide va s'inquiéter avant une nouvelle rencontre ou avant de parler en public, mais ce sera provisoire. L'anxiété sociale, c'est la peur du jugement négatif envers soi. On a tendance à se dévaloriser, alors on a une aggravation de la peur chaque fois, ce qui nous empêche d'agir. Une anxiété sociale peut être plus ou moins handicapante et crée une souffrance. On craint constamment de donner une mauvaise image de soi. On pense que les autres ne remarquent que nos défauts, alors on imagine les pires scénarios, on se questionne, on exagère et on est paralysé par l'angoisse. On estime que c'est autour de 5 à 7 % de la population qui souffre d'une anxiété sociale pathologique qui correspond à des critères de gravité et de handicap. À quel âge l'anxiété se détecte-t-elle? On voit des enfants vers 5 ou 6 ans qui sont déjà plus que timides. On observe qu'il y a une gêne qui les paralyse au quotidien. Ils vont renoncer à voir des amis, à aller à des anniversaires. Ça peut aussi se manifester à l'adolescence. Ça ne veut pas dire que tous les enfants auront pendant leur vie un problème d'anxiété. Dans certains cas, ça va s'atténuer, voire disparaître, mais dans d'autres cas, ça peut durer des années ou des décennies. Il faut pouvoir repérer l'anxiété à un jeune âge et les parents peuvent faciliter les choses en encourageant leurs enfants, doucement, sans trop les brusquer, à aller vers les autres. Si les parents sont eux-mêmes dans le repli social, n'ont pas beaucoup d'amis, ne sortent pas ou ont tendance à déconsidérer leurs enfants, ça peut être plus grave. Ces anxiétés sociales sont-elles plus fréquentes? elles sont plus gênantes. Il y a toujours eu une partie de la population qui avait une gêne vis-à-vis de la communication, mais aujourd'hui, avec les technologies, on a démultiplié les moyens de communication. On a beaucoup plus d'échanges et les gens qui ne sont pas très à l'aise en souffrent plus au quotidien. Et en même temps, avec les nouvelles technologies, on a réduit les échanges en personne. Ça crée un écran, c'est le cas de le dire, avec l'autre, ce qui semble protecteur. On l'a vu pendant la pandémie car beaucoup de gens avaient moins de contacts réels et étaient cachés derrière leurs écrans et leurs masques. Ces rapports artificiels et distanciels, ça protège sur le moment, mais ça n'aide pas à se sentir plus à l'aise. On est plus vulnérable car on a perdu l'habitude du contact et il faut réapprendre à vivre dans le réel, ce qui est difficile mais nécessaire. Il y a des gens pour qui il est très pratique de créer de nouveaux liens par le biais de l'Internet, mais il faut aller au-delà. Lorsqu'on souffre d'anxiété sociale, quel est l'impact sur la vie quotidienne? Ça commence souvent tôt dans la vie. Il peut y avoir des conséquences sur les études, l'école, l'université, la peur de passer des examens, de devoir être en groupe, de parler en public. Beaucoup de gens anxieux se restreignent dans leur vie. Ça peut être un frein à l'épanouissement personnel et professionnel. Il y a des gens qui renoncent à une promotion, car ils savent qu'ils vont devoir diriger une équipe, parler en public ainsi que dans les réunions. On le voit dans les statistiques que les anxieux sociaux n'ont pas le même niveau d'études ou le même profil socio-économique et professionnel qu'ils pourraient souhaiter à cause de ce frein, parfois difficile à surmonter. Est-ce qu'on en parle plus ouvertement de l'anxiété sociale? Oui, mais pas beaucoup par rapport à l'ampleur de l'anxiété sociale dans notre société. C'est bien que certains en parlent. Il y a eu récemment Naomi Osaka et Simone Biles, mais c'est encore tabou. Un des motifs principaux des anxieux sociaux, c'est le fait qu'on sache qu'ils en souffrent, car c'est vécu comme un tabou. Dans notre société, il y a un besoin de performance et d'image de perfection qui est omniprésent. Le culte de l'image avec les réseaux sociaux, c'est difficile pour ceux qui souffrent d'anxiété et de phobie sociale. On doit pouvoir montrer qu'on a des moments de fragilité et de sensibilité. On doit être plus ouvert, être moins dans le jugement, car on a tendance parfois à se moquer des gens qui rougissent. Il suffit d'une remarque une fois et on peut être marqué à vie ou presque par une scène vécue de rougissement. C'est très banal de rougir, mais dès qu'on refuse de rougir, car c'est perçu comme un signe de faiblesse, ça peut devenir une obsession pour certaines personnes. On appelle l'érutophobie la peur de rougir en public, qui peut être une source de handicap. Comment traite-t-on l'anxiété sociale? Par l'action. On essaie petit à petit de supprimer tous les évitements qu'on peut faire au quotidien. Le problème, c'est qu'on n'en a pas toujours conscience. Ça peut être la peur de poser une question, de regarder les gens dans les yeux, d'exprimer une opinion. L'exposition au regard des autres permet de faire baisser la peur petit à petit. On va gagner la confiance en soi. On va perdre nos réflexes d'appréhension, ce qui permettra d'améliorer sa qualité de vie. On va rencontrer plus de personnes. On va se faire des amis, sortir davantage, être plus à l'aise socialement. Le but n'est pas de devenir extraverti, mais de gagner en liberté de choix et d'action. Pour ça, il faut sortir de sa zone de confort, par étapes, doucement, mais dans la durée. Le plus efficace, c'est la psychothérapie. Il faut s'exposer au regard des autres, dans la bienveillance, et apprendre à changer l'image qu'on a de soi-même. C'était « Sortir de sa coquille et apprivoiser la peur des autres », un texte d'Olivia Lévy, paru le 2 avril 2023 dans La Presse. Thank you.
peur aux riches, un texte de Louis Cornelier, paru dans le D-Magazine édition 25 et 26 mars 2023 du journal Le Devoir. C'est le journaliste Jean-Claude Guilbeault qui raconte l'anecdote dans son essai « La trahison des Lumières, Seuil 1995 ». Au lendemain de la chute du mur de Berlin en 1989, le poète Claude Roy, 1915-1997, qui avait été près des mouvements d'extrême droite dans sa jeunesse avant de rejoindre les communistes dans les rangs de la résistance, se fera poser cette brûlante question par un de ses amis. Mais qui fera peur aux riches maintenant? Le christianisme, avec sa figure du mauvais riche, donnait mauvaise conscience aux nantis. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent, dit clairement Jésus dans l'Évangile de Luc, instaurant ainsi une longue tradition chrétienne de critique des fortunes abusives. Dans ses sermons, le jésuite Louis Bourdaloue, 1632-1704, n'y va pas de main morte en ce sens. « Malheur à vous, les riches, écrit-il, parce que vouloir toujours s'étendre et ne nuire à personne, ce sont communément dans la pratique deux volontés contradictoires. » Dans le même esprit, le bouillant Léon Blois, 1846-1917, se faisait radical. « Tous les sophismes des démons, clamait-il dans « Le sang du pauvre » en 1909, ne changeront rien à ce mystère que la joie du riche a pour substance la douleur du pauvre. Quand on ne comprend pas cela, on est un sot pour le temps et pour l'éternité. » Le marxisme voudra, quant à lui, dépasser la dénonciation morale du scandale de la richesse en concevant un moyen politique et économique d'y mettre fin. Les systèmes qui s'en sont inspirés ont certes débouché sur des catastrophes humaines, mais il n'est pas déraisonnable de postuler que leur existence a, sur le versant positif, incité les capitalistes du monde entier à faire preuve de retenue de peur de passer dans le tordeur. Or, le christianisme et le communisme, aujourd'hui, par leur propre faute à bien des égards, sont tombés dans le discrédit et ne font plus trembler grand monde, surtout pas les riches, qui s'en donnent à cœur joie en l'absence de tout opposant moral ou politique sérieux. Dans La société de provocation, Luxe 2023, 240 pages, un vigoureux pamphlet contre l'arrogance des ultra-riches, la sociologue Dalia Namian, manifestement campée à gauche, s'inscrit dans la belle et grande tradition des contempteurs de l'injustice économique. Elle redit le scandale d'un monde dans lequel certains se vautrent dans une abondance ostentatoire pendant que d'autres meurent de faim, tout en admirant ceux qui les réduisent à l'indigence. « Nous vivons, écrit Namian, dans une bien curieuse société où les maîtres s'autorisent toutes les provocations, confiant que celles-ci ne pousseront jamais leurs serviteurs à la révolte. On peut ainsi cumuler des fortunes et des palais, puis se faire applaudir pour son esprit philanthropique. » Les ultra-riches, illustre la sociologue, détruisent le monde et le tissu social, en laissant la terre brûler derrière eux. Ici, pendant que le premier 1% des familles canadiennes les plus fortunées possède près du quart de toute la richesse au pays, on laisse les services publics, notamment les hôpitaux, se détériorer et 7 millions de personnes avoir faim. Les géants alimentaires canadiens, qui engrangent des profits records, protègent leur réputation en donnant un peu aux banques alimentaires, mais s'oppose en coulisses à l'augmentation du salaire minimum. Plus les inégalités se creusent dans une société, note Namian, plus le nombre de fondations charitables s'y multiplie. Sur le plan environnemental, le portrait est accablant pour les Crésus de ce monde. Dans La Presse du 27 février 2023, Francis Vaille rapporte qu'en 2019, les ménages américains appartenant aux 0,1% le plus riches émettaient 955 tonnes de GES par année, soit 23 fois plus que le ménage moyen et 57 fois plus que ceux appartenant aux 10% les moins nantis, que tout le monde regarde pourtant de haut. De 1996 à 2019, continue Vaille, les émissions de GES ont baissé de 16% pour le ménage américain moyen, mais celles du 1% le plus riche ont augmenté de 23%. Et comme ça commence à chauffer partout, poursuit Namian, ces richards inconscients, quand ils ne rêvent pas de se réfugier dans l'espace comme Elon Musk ou Jeff Bezos, s'achètent des îles privées préservées où ils se rendent avec leur yacht hyperpolluant pour y faire pousser des légumes biologiques en exploitant des employés non syndiqués, comme chez Amazon. Emprunté à l'écrivain Romain Gary, le concept de société de provocation désigne un ordre social qui glorifie le mode de vie obscène et toxique des riches au mépris de la misère et du ressentiment qu'il engendre chez les autres. C'est, par exemple, Dubaï, dans un monde où 800 millions de personnes ne mangent pas à leur faim. Nous y sommes et c'est intolérable. Qui leur fera peur? C'était « Faire peur aux riches », un texte de Louis Cornelier, paru dans le D-Magazine, édition 25 et 26 mars 2023, du journal Le Devoir.
Philippe Claudel, Entre chiens et loups, un texte de Christian Desmeules, paru dans l'édition des 25-26 mars 2023 du journal Le Devoir. Avec Crépuscule, le romancier français nous offre une fable envoûtante qui nous parle d'hier et d'aujourd'hui. Dans une province balkanique et multiculturelle aux confins d'un empire faisant penser à l'Autriche-Hongrie au début du XXe siècle, T est une petite ville sans histoire. Avec son atmosphère féodale et engourdie, c'est une sorte de trou du cul du monde, où les hivers semblent être sans fin. Mais le meurtre du curé, retrouvé par des enfants le crâne fracassé d'une grosse pierre, va enflammer les esprits. Très vite, des personnages qui attendaient peut-être l'événement vont se mettre à jeter de l'huile sur le feu. La petite mosquée sera incendiée et les quelques familles de confession musulmane seront tentées de prendre le chemin de l'exil vers le pays dont la bannière se frappait d'un croissant d'or. Un meurtrier qui court, une ville aux abois, des ombres qui s'allongent. On s'approchait du bord d'un abîme. C'était certain, mais lequel? C'est la question qui fait bouillir Crépuscule, le nouveau roman d'atmosphère et de contraste de Philippe Claudel, une fable dure et fascinante portée par un style rond et charnel. Avec son physique de rongeur cabossé, Nourio mène l'enquête. Marié et père de plusieurs enfants, obsédé sexuel, qui trousse sans arrêt sa femme toujours enceinte, rêvant d'avancement, le policier sent qu'il joue son va-tout. À ses côtés, Barrage, son adjoint timide et pâteau, un peu poète, fait penser à un bœuf ou à un cheval de trait. Il ne manquait que le piquet auquel l'attacher pour le temps de sa vie. Dans ce pays de froid et de brouillard, le policier, instrument des ténèbres malgré lui, se pliera peu à peu à une drôle de vérité efficiente. J'en suis venu à la conclusion qu'est vrai ce qui est demandé et acceptable par le plus grand nombre. Rien pour déplaire au maire, au notaire ou au rapporteur de l'administration peu pressé d'éclaircir les crimes. Tandis que Lémia, qui a trouvé le corps du curé, fille presque nubile du sabotier, fait tourner la tête du policier. Pendant 3 mois, la façade lisse de la petite ville immobile va se lézarder. Une étrange inquiétude s'installe. Les citoyens sont sur les dents, une menace sans forme et sans nom, comme un gaz inodore, en vient à remplir tout l'espace. L'ennemi? Le mal? Rien d'autre. Peut-être que les rouages rouillés d'un empire sur le déclin, une machine aveugle et sans autre but que celui de préserver sa propre vérité, épuisé par sa fausse grandeur et sa cohésion factice, aveuglé par sa splendeur passée. Impossible, par moments, de ne pas songer au grac du rivage des Sirtes ou au busati du désert des Tartares. Deux auteurs auxquels l'écriture de Claudel a souvent été comparée. Né en Lorraine en 1962, dos à la frontière, le romancier et cinéaste français a l'habitude des décors posés entre chien et loup. Comme avec Les âmes grises, paru chez Stock et prix Renaudot 2003, qui s'articulait autour du meurtre d'une fillette, ou le rapport de Brodeck, paru chez Stock en 2007, qui mélangeait crime, xénophobie et lâcheté villageoise. Avec Crépuscule, Philippe Claudel tisse une fois encore un univers envoûtant, toujours un peu d'hier ou d'avant-hier, posé dans un temps où les choses étaient à la fois plus simples et plus complexes. Un roman capable d'entrer en résonance avec notre présent, lui aussi traversé de passions fortes, d'opinions rapides et de manipulations subtiles. C'était Philippe Claudel, Entre chien et loup, un texte de Christian Demeul, paru dans l'édition des 25 et 26 mars 2023 du journal Le Devoir.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage, Justine Langevin et Robert Chartier à la lecture, Evelyne Séverin à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.